Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour ce 113e numéro de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale qui va aujourd'hui être dédié à une actualité d'une autre nature. Vous savez sans doute que nous célébrons en 2020 le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven, né le 15 ou le 16 décembre 1770. J'avais annoncé la semaine dernière que, compte tenu du fait que les concerts et les opéras ne reprendraient pas, nous allions consacrer un cycle d'émissions au grand compositeur allemand. Alors inutile de vous dire que le chantier est immense, à la démesure du personnage et de son œuvre. Il y avait plusieurs façons d'aborder l'affaire, et après y avoir réfléchi avec les chroniqueurs de Mélomanie, nous avons choisi de découper la vie et l'œuvre de Beethoven en trois périodes de durée inégale. Aujourd'hui, ce sont sa jeunesse à Bonn, son arrivée à Vienne jusqu'au fameux testament d'Heiligenstadt que nous allons évoquer, en poussant même un petit peu plus loin, jusque vers 1804-1805, nous allons y suivre l'évolution d'un homme et de sa musique à travers quelques rencontres et influences capitales, le tout illustré bien sûr d'extraits de ses œuvres de la période. Pour m'aider dans cette vaste tâche, j'ai de nouveau invité les excellents Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et Serge Krichewski, oboïste de l'Orchestre National du Capitole, chef de l'Orchestre en Harmonie, président du Festival Musique au Palais et vice-président des Clés de Saint-Pierre. La première partie de cette émission est appelée « Retour arrière ». Eh bien, nous vous proposons pour commencer un retour arrière de 2 siècles et demi.
Mélomanie. Retour arrière.
Et l'on est évidemment curieux, lorsqu'on célèbre les 250 ans de la naissance d'un génie, de savoir dans quelle famille, quel milieu il a vu le jour. Je le disais il y a quelques instants, Ludwig van Beethoven est né le 15 ou le 16 décembre 1770 à Bonn, sur les rives du Rhin, pas très loin de Cologne. Serge Chosy, vous qui avez bien exploré la biographie du compositeur, à quoi ressemble la famille dans laquelle il naît ? Il ne s'agit pas du tout de la grande bourgeoisie rhénane, mais plutôt d'un milieu modeste, bien que très musicien.
Oui, c'est un milieu musicien. D'ailleurs, son propre grand-père était déjà musicien. Son père également, mais un père un peu particulier, donc alcoolique, tyrannique, violent. Et puis une mère modeste, hein, donc qui meurt d'ailleurs assez jeune. Et donc, c'est un milieu tout à fait simple, tout à fait ordinaire, je dirais, en mettant des guillemets. Et sous l'influence quand même de son père, bien qu'elle soit tyrannique, il est quand même nommé deuxième organiste de la cour du prince électeur de Cologne. Hein, mais à Bonn, il se sent un peu à l'étroit. Et c'est donc à Vienne qu'il trouvera sa voix, notamment auprès d'un grand compositeur qui a aidé de nombreux de ses contemporains, c'est Joseph Haydn. Alors, Beethoven, quand on observe son œuvre et sa vie, son œuvre, on pourrait dire qu'il est le dernier grand représentant du classicisme viennois, après Gluck, Haydn et Mozart, et en même temps le premier des romantiques. Donc c'est paradoxalement un compositeur de transition. C'est tout de même incroyable, hein. Et puis il est plus que ça, puisque ce que disait Romain Rolland à son propos, Romain Rolland qui était un admirateur inconditionnel de Beethoven, a écrit « Il est bien davantage que le premier des musiciens, il est la force la plus héroïque de l'art moderne ». Donc il s'agit vraiment là d'une personnalité tout à fait exceptionnelle.
Une chose tout de même sur ses premières années, ses années de jeunesse et de formation, très vite le père, ce père donc violent, alcoolique, brutal, repère les dons de son fils et il envisage même de les exploiter à son profit, sur le modèle de Léopold de Mozart, son très jeune Wolfgang.
Ah, tout à fait. Hein. Évidemment, il a manifesté des dons tout à fait exceptionnels, très tôt. Hein. Alors, il n'a peut-être pas composé sa première symphonie à 5 ans comme Mozart, mais il avait vraiment des dons tout à fait...
Pianiste en particulier.
Oui, virtuose. Hein. Alors, c'était un pianiste extraordinaire qui excellait dans l'improvisation. Et donc la chronique de l'époque, on lit dans un journal de l'époque que ses improvisations arrachent des larmes et des sanglots à ses auditeurs. C'est tout de même extraordinaire. Donc c'est vraiment quelqu'un de très particulier.
Un mot tout de même sur le grand-père de Beethoven.
Alors, effectivement, apparemment, il paraît que le génie peut sauter, ou les caractéristiques génétiques peuvent sauter une génération. Apparemment, le grand-père de Ludwig van Beethoven avait un talent de compositeur et de musicien. Il était maître de chapelle, je crois, du prince électeur de Cologne. Et donc, il a représenté pour Beethoven probablement beaucoup plus que son propre père, un modèle à suivre. Et comme vient de le dire Serge Chosy, effectivement, la personnalité extraordinaire de Ludwig s'est exprimée à travers aussi d'autres influences, d'autres connaissances. Mais cette figure quand même du grand-père a été importante et probablement plus que le père. Alors malheureusement, Ludwig van Beethoven a perdu sa mère assez jeune. Hein. Je crois que... Est-ce que c'est au moment où il était déjà parti à Vienne? Peut-être un tout petit peu avant.
Un peu avant, je crois.
Ou au cours peut-être d'un de ses autres voyages. Et il se trouve que le père, malheureusement, a réagi à la mort de sa femme d'une façon encore plus dramatique. Donc l'alcool l'a complètement englouti. Et donc Beethoven a dû être le soutien de ses deux frères.
Et donc, est un peu déjà soutien de famille. Alors, Serge Krzyzewski, ce Beethoven de jeunesse, celui qui va vivre à Bonn jusqu'à fin 1792, avant de s'installer à Vienne, qui est-il musicalement parlant? Au-delà de son immense talent précoce de pianiste, compose-t-il très tôt des œuvres de bonne facture? Avant d'en parler avec vous, je propose qu'on écoute un premier extrait dans cette émission. Il s'agit de la sonate pour piano WOO 47 numéro 3, une des trois dites justement à l'électeur, composée en 1783 et qui serait, semble-t-il, les premières œuvres de Beethoven, alors âgé de 12 ans. La sonate pour piano WOO 47, la troisième dite à l'électeur de Beethoven, œuvre de jeunesse composée dans sa 13e année, la plus ancienne que l'on trouve au catalogue. Qu'est-ce que vous pensez de cette pièce, Serge Krzyzewski? Est-ce qu'on y trouve déjà les traces de la grande œuvre à venir?
Alors,
pas vraiment.
On va dire des petites traces. Bon, maintenant, une des questions qui se posera toujours avec les sonates et la musique pour piano de Beethoven, c'est la dimension symphonique qu'elle peut prendre. Et déjà, il y a quand même une tendance à exploiter les registres extrêmes du piano, une dimension comme ça architecturale, mais... plus en, voilà, dans la tessiture de l'instrument qu'il a à l'époque à sa disposition. Ça, on reparlera de l'évolution du piano pendant toute la vie de Beethoven, une évolution énorme entre 1770-80 et 1827. Mais c'est sûr que c'est une période où Beethoven va beaucoup osciller, alors là il est très jeune à cette époque-là, entre un style classique franchement affirmé, comme celui de Mozart et Haydn, et des éléments beaucoup plus pré-romantiques, proto-romantiques. On en reparlera, mais voilà. Une des choses à dire, c'est que ses œuvres de jeunesse qui ont leur maladresse, surtout elles ont une spontanéité, une fraîcheur qu'il faut reconnaître, elles ont surtout un manque d'unité, c'est-à-dire que ce qui est frappant, c'est qu'on trouve parfois un mouvement très intéressant, ou qui a quand même des choses prometteuses, et puis après ça, deux mouvements beaucoup plus plats, ça c'est une des choses étonnantes.
On va continuer à explorer le piano de Beethoven, parce que dès son plus jeune âge, Beethoven c'est aussi la musique de chambre, et en voici un exemple avec ce quatuor avec piano WOO 36 numéro 1 composé en 1785, dans sa 15e année donc.
Thank you.
Le premier mouvement Adagio assez du quatuor avec piano WOO 36 numéro 1 de Beethoven, interprété par Marc Coppet, Raphaël Oleg, Miguel da Silva et Philippe Cassard, œuvre donc de 1785 d'un compositeur encore adolescent. Est-ce qu'on sent déjà une évolution, Serge Krzyzewski, par rapport à la sonate pour piano seul qu'on a écoutée juste avant?
Alors, évidemment, il n'y a pas beaucoup de temps qui s'est écoulé, mais on a déjà, par exemple, un quatuor qui commence par un mouvement lent, un grand Adagio, très méditatif, très rêveur, comme Beethoven en écrit. De magnifiques en particulier. Il a compris l'association du piano et des cordes. Évidemment, l'inspiration vient de Mozart, mais enfin, il va développer ça bien en musique de chambre. Il y a cette manière très, très calme, comme ça, d'écrire, et puis... En même temps, de dérouler une certaine volute, qui sont un petit peu comme ça, qu'on retrouvera après beaucoup plus tard chez Chopin, aussi chez son concurrent Hummel. Voilà, une œuvre qui marque un petit pas quand même, on peut dire déjà.
Mais toujours avec le piano, évidemment, au centre.
Voilà, toujours avec le piano.
Alors, on reprend le cours de la biographie de Beethoven, parce qu'il faut qu'on parle d'un personnage qui va être très important dans sa vie, dans sa carrière. C'est le comte Ferdinand von Waldstein. Vrai mécène, protecteur, qui rencontre donc à la cour du prince électeur de Cologne. Et c'est lui qui va lui faire son premier voyage à Vienne en 1787.
Oui, c'est ça. Donc, il ne restera pas à Vienne, il repartira ensuite à Bonn. Mais effectivement, il lui met un peu le pied à l'étrier, en quelque sorte, puisqu'à cette époque-là, Vienne est évidemment non seulement la capitale de l'Autriche, bien sûr, mais surtout la capitale culturel de l'Europe, et on peut dire du monde, et surtout capitale musicale. Tout ce qui se fait en musique se fait à Vienne. Et donc Mozart est venu là, il est venu de Salzbourg à Vienne, parce qu'il trouvait que Salzbourg c'était provincial. Et bien Bonn était provincial aussi pour Beethoven, qui est venu à Vienne. Donc effectivement, Waldstein a joué un rôle extrêmement important dans la carrière de Beethoven.
Alors, 1787, premier voyage à Vienne, vous venez de parler de Mozart, il y a une rencontre.
Et oui,
ce sera la première et la seule.
Oui, oui, à cette occasion, effectivement, il existe même des illustrations qui montrent la présence des deux personnages. Et donc, il rencontre donc Mozart à Vienne, qu'il admirait beaucoup. Et d'ailleurs, il y a un texte que je voudrais vous rappeler rapidement, qui est cité par André Boukourechtchev, mais c'est un texte qui est écrit par Otto Jahn, qui était un musicologue spécialiste de Mozart, et qui dit ceci. À la demande de Mozart, Beethoven lui joua quelque chose que Mozart, le prenant pour un morceau d'apparat appris par cœur, approuva assez froidement. Beethoven s'en étant aperçu, le pria alors de lui donner un thème sur lequel improviser, et comme il avait l'habitude de jouer admirablement quand il était excité, inspiré d'ailleurs par la présence du maître pour lequel il professait un respect si grand, il joua de telle façon que Mozart, se glissant dans la pièce voisine où se tenaient quelques amis, leur dit vivement « Faites attention à celui-là, il fera parler de lui dans le monde ». Bien vu de la part de Mozart.
Oui. Alors, effectivement, la capacité d'improvisation de Beethoven ont été très puissantes apparemment, mais il faut dire que c'est une tradition, puisque des gens comme Jean-Sébastien Bach, Mozart, ont été de très grands improvisateurs, et on n'a qu'une partie de leur pensée musicale qui a été notée. Après, mis à part des gens comme Liszt, peut-être, je ne sais pas, Chopin, mais c'est moins probable, mais c'est une tradition qui va un peu se perdre, puisque on va vraiment, les compositeurs vont se concentrer sur l'écriture, véritablement, mais voilà.
Autre rencontre capitale, l'autre grand personnage de musique à Vienne, bon, on a parlé de Mozart évidemment, c'est Haydn.
Ah oui.
Et la rencontre avec Haydn n'a pas lieu à Vienne, elle a lieu à Bonn.
Alors effectivement, le premier personnage peut-être le plus important dans les rencontres de Beethoven, qui le projette véritablement, qui lui donne confiance aussi, c'est le comte Waldstein, ce comte qui était lui-même un très bon pianiste et qui était très proche de la cour du prince électeur de Cologne, découvre Beethoven, le prend sous son aile, et lui fait connaître Haydn au retour d'un des voyages de Haydn de Londres, où il avait interprété ses symphonies, il avait été invité pour écrire des symphonies. Effectivement, une partition qui sera d'ailleurs très prometteuse de Beethoven est montrée à Haydn, et on lui demande de bien vouloir prendre Beethoven comme élève, ce qu'il accepte, et donc Beethoven va avoir la possibilité de partir étudier à Vienne à la fin de cette année, donc en octobre 1792, et c'est là que se situe la célèbre recommandation du comte Waldstein. Donc vous partez à Vienne, vous allez rencontrer le grand compositeur Joseph Haydn, vous allez recevoir de lui l'esprit de Mozart, puisque le génie de Mozart est en deuil, et puisque Mozart venait de mourir au tout début de l'année 1792. Et donc, vous allez prendre la suite. Et effectivement, Beethoven arrive et réellement, il y a un phénomène de relais dans le...
Il faut quand même reconnaître que l'appréciation de Haydn est tout à fait extraordinaire, puisqu'il dit « Vous me faites l'impression d'un homme qui a plusieurs têtes, plusieurs cœurs, plusieurs âmes. » Donc, il a vraiment découvert en Beethoven un personnage tout à fait exceptionnel qui a un cerveau qui explose en quelque sorte, qui est plein d'idées et qui ne va pas mener à... Toujours à bon terme, mais en tout cas qui va explorer. Oui, oui.
Cela dit, les relations entre Haydn et Beethoven ne sont pas si faciles que ça.
Absolument, ce n'est pas forcément toujours le bon papa Haydn tel que le qualifiait Mozart. Donc,
C'est-à-dire que je pense que Mozart et Beethoven avaient deux personnalités très très différentes, et des affects. Bon, Beethoven est une personnalité beaucoup plus ombrageuse, qui a un ego qui commence à se développer avec ses premiers succès. Il voit bien en arrivant à Vienne qu'il est très très demandé, très adulé. Il obtient des succès dans les salons par justement ses qualités d'improvisateur, ses premières œuvres. Les grands aristocrates de l'époque, qui sont la plupart du temps des diplomates, des gens qui voyagent et qui eux-mêmes sont musiciens, commencent à lui commander des œuvres, parfois des cycles d'œuvres. Les six quatuors opus 18 sont commandés par un prince qui a lui-même un quatuor à cordes à sa disposition, qui peut-être parfois y joue. Et la quasi-totalité des œuvres de Beethoven jusqu'à sa mort sera dédiée à un de ces aristocrates mécènes de Vienne.
Mais en fait, il va vivre des commandes de ses mécènes et sous leur protection en quelque
Absolument.
Sorte. Alors, il ne sera jamais richissime, mais il va vivre confortablement.
Il va vivre confortablement. Alors, c'est vrai que cet ego dont je parlais, cette confiance en lui, qui est vraiment naissante et qui s'affirme, va beaucoup grandir, mais en même temps va être brusquement arrêté et scié par un événement dramatique dont, Eric, vous allez nous parler probablement.
Bien sûr. Mais avant, on va écouter un extrait d'une œuvre composée durant les premières années viennoises, le concerto pour piano numéro 2 qui date de 1795. C'est une version du London Symphony Orchestra dirigée par Sir Colin Davis et c'est Evgeny Kissin qui est au piano. Le troisième mouvement du concerto pour piano numéro 2 de Beethoven, œuvre composée en 1795, interprétée ici par le London Symphony Orchestra, dirigé par Colin Davis, et avec Evgeny Kissin au piano. Alors là, Serge Krzyzewski, là il y a du nouveau dans cette pièce par rapport à ce qu'on a entendu auparavant, c'est déjà le grand Beethoven qui émerge et qui s'émancipe de ses maîtres et modèles.
Absolument, c'est vrai que le scherzo donc, du second concerto, qui est en fait écrit le premier, hein, écrit en premier dans l'ordre des cinq concertos, il y a une vie rythmique, il y a une pulsation qui est extraordinaire et qui est typiquement beethovenienne, qui n'aurait pas pu être écrite comme ça avant, vraiment. Voilà, on est à peine après la mort de Mozart, Haydn continue d'écrire ses chefs-d'œuvre et pourtant, alors, il y a l'esprit que relevait Serge Chosy, l'esprit qui est très très là, l'humour qui est là, hein, les silences, le jeu sur... là aussi, également, toujours, hein, l'utilisation des tessitures du piano, la volubilité du clavier, de la main droite, donc après, d'ailleurs, un très bel adagio aussi dans ce concerto, hein. Bon, c'est déjà une œuvre tout à fait intéressante, hein. Remarquable.
Donc 1795, il a à peine 25 ans, hein. Et l'année suivante, il survient cet événement qu'évoquait Serge Krzyzewski juste avant qu'on passe cet extrait, ce sont les premiers signes de la dégradation de son ouïe, 1796. Comment ça se manifeste, Serge Chosy? C'est des acouphènes, je crois.
Mais voilà, d'abord des acouphènes, et puis... un élément de surdité qui s'installe petit à petit, donc il a du mal à mener une discussion avec les personnes qu'il rencontre, et donc il commence à vraiment se sentir très mal sur ce plan-là. Il consulte pas mal de médecins qui ne trouvent aucune solution, puisqu'on ne sait pas quelle est la cause de cette affection, donc, et vraiment, ça commence à être très inquiétant pour lui, tout en plus inquiétant pour un compositeur, pour un musicien, enfin, comme il le dira plus tard, ce sens qui devrait être le plus développé pour son travail, pour son métier, pour ce qu'il est, eh ben c'est lui qui est affecté, donc c'est dramatique.
Et puis évidemment, la survenue de ce handicap ne va pas ranger son caractère déjà ombrageux, comme le disait Serge Krzyzewski.
Effectivement, c'est vrai que c'était une personnalité déjà assez bouillonnante, un peu bourrue peut-être parfois, hein, mais l'apparition de ce handicap va renforcer encore plus, enfin progressivement, hein, sa solitude. C'est progressivement, il réalisera qu'il devra se retirer des concerts. C'est une chose qui sera plus tardive, mais enfin, malgré tout, les premiers signes arrivent, et c'est ce qui fait la spécificité du destin de Beethoven, c'est qu'il réussit à surmonter cette épreuve terrible et à construire une œuvre, parce que là, on va arriver à peu près dans cette émission jusqu'à 1805, mais il reste encore beaucoup, beaucoup de grandes œuvres à écrire, et il les écrira en étant sourd, quasiment complètement, progressivement.
Alors, la surdité complète, ça va être vers 1802, on va en parler, mais entre 1796 et 1802, il y a d'autres chefs-d'œuvre qui vont émerger. On a écouté ce deuxième concerto pour piano.
D'abord, on peut se demander, effectivement, comme le remarquait Serge Krzyzewski, c'est que comment, sans ouïe ou avec une ouïe tellement affectée, peut-on... On peut se poser la question.
Déjà jouer, concevoir, et composer.
Jouer. Alors, bon, la musique, c'est aussi de la structure, hein, c'est aussi des mathématiques. Et puis il n'est pas né sourd, donc il y a toute une culture qu'il s'est acquise, mais c'est évidemment un grand mystère de savoir que même c'est au moment où il est totalement sourd qu'il compose ses chefs-d'œuvre les plus évidents.
Ouais.
C'est tout de même incroyable. Ouais,
c'est mystérieux.
Alors c'est surtout que effectivement, comme vous l'avez justement dit, il n'a pas toujours été sourd, et donc il a un monde intérieur sonore extrêmement développé, et il n'a pas perdu la faculté, évidemment, heureusement, d'écrire et de lire une partition. Donc en la lisant, il l'entend dans sa tête.
Bien sûr.
Et tout ça nourrit évidemment son imaginaire. Et comme en plus, alors, il faut bien le dire, les créateurs, les compositeurs, les écrivains, souvent sont des gens plutôt solitaires. Il est peut-être presque même nécessaire qu'ils le soient. Beethoven avait déjà cette tendance. Ça n'avait jamais été quelqu'un de très social, de très sociable. Il est évident que là, les choses vont s'accentuer énormément, au point qu'il va devenir quasiment sauvage. Enfin, et puis il y aura une forme aussi de honte à sortir, en sachant qu'il ne peut pas
bien
entendre.
Entendu. Lui, il était confiné dans sa tête, pour reprendre un terme malheureusement à la mode en ce moment.
Exactement, c'était un confinement intérieur.
Alors, il y a entre autres parmi les œuvres de l'avant 1800, c'est-à-dire cette période où il entend encore, il entend mal,
mais il entend encore,
il y a un septuor pour vent et cordes, opus 20, très intéressant, composé en 1799, et que je vous propose d'écouter maintenant avec deux extraits en fondu enchaîné. Thank you. Deux extraits du Septuor pour vent et cordes opus 20 joué par les solistes du Wiener Philharmoniker et enchaîné à la suite une pièce composée en 1799 donc, où l'on découvre une autre facette du génie de Beethoven puisque là, il n'y a pas le piano. Là.
Voilà, alors pour une fois, une œuvre qui va être extrêmement appréciée et célèbre donc de Beethoven, de son vivant, au point qu'elle deviendra presque une casserole. Enfin, à la fin, ça l'énervera beaucoup qu'on fasse référence au Septuor. C'est une œuvre effectivement originale parce que, bon, bien sûr, des œuvres qui associe des cordes et des vents, il y en a eu avant, mais peut-être sous forme peut-être de soliste, c'est-à-dire qu'il y a l'équateur pour cordes et au bois, flûte, le quintet clarinette magnifique de Mozart, et puis d'autres choses un peu moins d'autres compositeurs. Mais là, il y a trois vents, donc on a une clarinette, un basson, un cor, qu'on entend très bien là, et un quatuor à cordes, mais avec une contrebasse, donc il n'y a pas de second violon, mais voilà. Et il est évident que c'est une œuvre qui en a généré une autre quelques années plus tard, qui est l'octuor de Franz Schubert, magnifique œuvre, et là, dans ces deux extraits, on a bien entendu la filiation, parce que Schubert, on en parlera, avait une admiration énorme, presque excessive pour Beethoven. Mais voilà, ces extraits dans lesquels on entend bien les vents anticipent sur le sujet des symphonies, puisque Ludwig van Beethoven, on le sait tous, a été un très grand compositeur de symphonies. Il est presque avant tout célèbre pour ses symphonies. Et progressivement, Beethoven va arrêter d'écrire de la musique de chambre avec des vents et va transférer son intérêt pour les instruments à vent dans les symphonies. Il va se mettre à écrire des solos magnifiques, enfin, on verra avec l'héroïque tout à l'heure, mais la symphonie héroïque, c'est quasiment, il y a presque autant, voire plus à jouer, ce qui n'était pas toujours le cas à l'époque, hein, pour les vents que pour les cordes.
Oui, parce que donc, ce Septuor est de 1799, il n'a pas encore composé de symphonie à l'époque, c'est juste après qu'il va commencer sa
première. La première date de 1800, effectivement.
Sa première symphonie. Alors c'est aussi à cette période qu'il compose sa fameuse sonate pour violon et piano numéro 5, appelée aussi sonate printemps, c'est en 1800 justement. En voici une version célèbre, celle enregistrée par le violoniste Itzhak Perlman et le pianiste Vladimir Ashkenazy. Le premier mouvement de la sonate pour violon et piano numéro 5 de Beethoven, la célèbre sonate Printemps, jouée ici par le duo Perlman-Ashkenazi. Alors cette forme sonate, Beethoven va vraiment l'explorer, la développer à sa façon, en s'émancipant petit à petit là aussi des influences de Mozart et Haydn. Là, il y a le piano et le violon.
Voilà, là, c'est effectivement, les sonates pour deux instruments, Beethoven aura écrit une dizaine de sonates pour violon dans un temps assez resserré, et puis des sonates pour violoncelle, un peu plus tard notamment. Alors, il y a les sonates, hein, il y a les œuvres qui sont des sonates, et il y a la forme sonate. Forme sonate, c'est autre chose. Mais les œuvres, les sonates, effectivement, il en aura écrites, en particulier beaucoup pour le piano seul, qui est son instrument. Donc, le violon, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une œuvre extrêmement mélodique, mélodieuse, très, très coulante, avec une mélodie qui n'est déjà plus du Mozart, hein, qui est vraiment une mélodie pré-romantique. Enfin, voilà, on pourrait dire presque déjà Biedermeier, mais qui évoque comme ça cet intérieur, cette intimité. Bon, il y a un grand personnage de violoniste qui a accompagné la vie de Beethoven, c'est Ignaz Schuppanzigh, qui était un grand violoniste de quatuor à cordes, qui était le premier grand quatuor à cordes professionnel de l'histoire de la musique, on peut dire, et qui était au service du prince Lobkowitz, puis ensuite Razumovsky. Et c'est quasiment pour lui et son quatuor que Beethoven écrira tous ses grands quatuors à cordes. Voilà, le concerto pour violon, je ne sais pas quel dédicataire de concerto pour violon, on en parlera plus tard, mais effectivement, les quatuors et le violon occuperont une place à cette époque importante.
La forme sonate, chez Beethoven, c'est peut-être une espèce d'apogée du genre, quoi.
Alors, c'est une apogée du genre. Bon, évidemment, chez Mozart, Haydn également, c'est tout simplement une forme tripartite qui commence par ce qu'on appelle une exposition, c'est-à-dire que pendant la première tiers de l'œuvre, du mouvement, les deux thèmes sont exposés avec des rapports de tonalité, des rapports de construction. Et cette première partie se terminant, on a une partie qu'on appelle le développement, qui est la partie centrale, la partie B. Et cette partie centrale est plus ou moins longue, plus ou moins développée. Alors, à l'époque de Mozart, et encore un peu au début chez Haydn, elle a une part assez réduite. Et ce qui est fascinant, c'est que déjà chez Haydn, et alors chez Beethoven en particulier, et ça va être son sujet de prédilection, on a un développement qui augmente en taille, enfin en structure, enfin qui va dans les tonalités voisines, qui module énormément, qui change de couleur, qui utilise parfois même une forme dans la forme, c'est-à-dire qu'on peut avoir une fugue à l'intérieur du développement. Et la troisième partie, c'est tout simplement la réexposition, c'est-à-dire le retour des deux thèmes exposés dans la première partie, dans une séquence en principe identique. Alors évidemment, pour Beethoven, pour lequel la forme sonate est à peu près cristallisée dans les années 1760, 70, 80, lui va se servir de ce moule pour en fait développer énormément le développement, utiliser tous les éléments qui sont à sa disposition. Ça peut être des moyens instrumentaux, les moyens de l'écriture, les moyens du contrepoint, et il va également remettre en question déjà ce moule de la forme sonate, c'est-à-dire que dans ses 32 sonates pour piano, c'est d'une certaine manière un catalogue de ce qu'on pouvait faire et de ce qui, après ça, il va imaginer avec son imagination extraordinaire, y compris évidemment après dans les symphonies et dans les quatuors à cordes.
On y reviendra à la forme sonate, on parlera tout à l'heure des sonates pour piano. Autre chose maintenant, en 1801, Beethoven compose une pièce qui détonne un peu dans son œuvre, l'oratorio Christus am Olberge, le Christ au Mont des Oliviers. Je dis qu'elle détonne cette œuvre, voire qu'elle étonne, parce que c'est le seul oratorio qu'il ait composé, et parce qu'on ne peut pas dire que la musique purement religieuse tient une place très importante dans la production beethovenienne.
Alors, dans la production beethovenienne et apparemment dans la production des compositeurs classiques, viennois en particulier, enfin, il y a un certain nombre de problèmes qui se sont posés à eux. Évidemment, le problème du dialogue entre le côté spectaculaire, le côté coloré, la présence des instruments même à l'église semblait être remis en question, puisqu'au départ la musique religieuse est plutôt d'essence vocale, voire même la plupart du temps a cappella, jusqu'à assez tardivement. Voilà, évidemment il s'agit de faire passer un texte. Donc la concurrence, on peut dire, des instruments et des formes qui sont issues de formes plus profanes ne plaira pas aux autorités religieuses. Et donc, bon, Beethoven, après quelles qu'aient été ses convictions religieuses personnelles, a effectivement écrit peu d'œuvres religieuses. Il y a une messe qui n'aura pas beaucoup de succès, c'est une messe en ut majeur, et cet oratorio. Alors il faut savoir que Beethoven adorait Handel, pour lui c'était un modèle vraiment à suivre, très haut placé, et également, bon, il connaissait certains des oratorios de Handel, et puis évidemment son maître Joseph Haydn avait écrit juste avant la composition du Christ au Mont des Oliviers deux magnifiques oratorios, le premier La Création, enfin il faut surtout ne pas oublier aussi les sept paroles du Christ en croix, qui est une œuvre extraordinaire qui a est existé sous trois formes chez Joseph Haydn. Mais disons, à Vienne, juste avant le Christ au Mont des Oliviers, on a la création et les saisons de Joseph Haydn. Et Beethoven, qui est d'une certaine manière, vous l'avez suggéré tout à l'heure, est devenu un petit peu le concurrent de Haydn. Hein. Malheureusement, après avoir été son élève, son brillant élève, et reconnu avec son talent, il y a des conditions comme ça un petit peu plus personnelles qui rentrent en jeu, et il va avoir envie d'écrire cet oratorio pour se mesurer peut-être à Handel et à Haydn, et il écrira ce Christ au Mont des Oliviers pour la période de Pâques. Elle sera créée à Pâques 1803, en avril 1803, alors ni plus ni moins, avec quand même le concerto numéro 2 ou le concerto numéro 1, je ne sais plus, non, ou le 3, la première symphonie, enfin il y a un programme faramineux hein, déjà, avec Beethoven qui lui joue encore la partie soliste, et ce Christ au Mont des Oliviers qui contient des pages admirables. Enfin, il est peu joué, mais...
Oui, il est rarement joué, en tout cas en France, peut-être plus en Autriche. Hein.
Voilà, en Allemagne, il y a quand même le grand ténor Fritz Wunderlich qui l'a enregistré. Il a quand même été joué. Bon. Et la dernière très grande œuvre de Beethoven pour l'Église, c'est la Missa Solemnis. Enfin, je dis pour l'Église, même si en fait, c'est presque plus au concert qu'elle trouve une meilleure place, une place plus naturelle.
On en parlera lors d'une prochaine émission. Là, on va écouter un extrait de ce Christ au Mont des Oliviers, Christus am Olberge. C'est une version enregistrée par le Concentus Musicus de Vienne sous la direction de Nicolas Arnoncourt, le chœur Preisset in Ehr Engel. Preisset in Ehr Engel, chœur extrait de Christus am Olberge, le Christ au Mont des Oliviers, oratorio composé par Beethoven en 1801 dans une version enregistrée par le Concentus Musicus de Vienne sous la direction de Nicolas Arnoncourt. Et nous arrivons à l'année 1802, année charnière dans la vie de Beethoven, et pas seulement parce que c'est celle où il compose sa deuxième symphonie. 1802, c'est l'année où il écrit son très célèbre testament d'Heiligenstadt. Alors, Serge Chosy, rappelez-nous ce qui se passe dans la vie du compositeur à ce moment-là, et pourquoi il en arrive à écrire ce texte superbe et poignant.
Ah il est complètement désespéré. Désespéré par l'atteinte, le niveau atteint par sa surdité qui l'isole de plus en plus. Et donc, il se retire dans cette petite ville de Heiligenstadt qui est maintenant devenue un faubourg de la ville de Vienne. Et donc, dans une petite maison qui se visite actuellement, qui est d'ailleurs devenue un musée, Beethoven, dans laquelle on peut voir exposer notamment des appareils que les médecins avaient imaginés pour des petits systèmes acoustiques pour lui permettre de mieux entendre, qui n'ont jamais fonctionné. Et donc, il s'isole dans cette maisonnette, en quelque sorte, d'Heiligenstadt, et il écrit ce qu'on peut considérer comme un testament, même si ce n'est pas dit en toutes lettres hein, dans le texte, mais c'est évidemment un testament, puisqu'il envisage de se suicider, d'en finir avec la vie qui lui est devenue insupportable. Et ce testament, qui peut se trouver sur Internet, vraiment je conseille aux auditeurs d'aller s'y référer, parce que c'est un texte totalement bouleversant, incroyable, et qui vraiment en dit beaucoup sur son caractère, parce qu'il était devenu... Enfin, il avait acquis une réputation de grand misanthrope, ce qu'il n'était pas en fait. Et alors voilà par exemple la phrase par laquelle commence ce testament. « Ô vous, homme qui me tenez pour haineux, obstiné, ou qui me dites misanthrope, comme vous vous méprenez sur moi. » Donc il y a une espèce de désespoir de sa part. Hein. Et il dit un peu plus loin « J'ai dû tôt m'isoler, mener ma vie dans la solitude. » Et si j'essayais bien parfois de mettre tout cela de côté, ô comme alors j'étais ramené durement à la triste expérience renouvelée de mon ouïe défaillante, et certes, je ne pouvais pas me résigner à dire aux hommes « Parlez plus fort, criez, car je suis sourd ». Enfin, si c'est dramatique, c'est une chose épouvantable. Et donc, il développe dans cette lettre qu'il adresse d'ailleurs à ses deux frères, Karl et Johann, et donc... Bon, il développe vraiment longuement tout ce qu'il ressent et il fait une espèce d'historique de sa maladie. Et alors en même temps, il s'en prend au médecin qui lui laisse de l'espoir alors qu'il constate qu'il n'en a aucun, hein, qu'il ne peut plus récupérer son audition. Et donc, voilà, il dit notamment « Je n'ai pas le droit au repos dans la société humaine, aux conversations délicates, aux épanchements réciproques, presque absolument seul ». Donc c'est cette solitude extrême qu'il a atteint au plus profond de lui-même. Alors il l'écrit en deux étapes, ce testament. Il l'écrit surtout le 2 octobre 1802, et puis il complète par un texte le 6 octobre en disant « Ainsi je te fais mes adieux ». Alors on pense que c'est à l'un de ses frères qui s'adressait. Et certes, tristement, oui, à toi. En fait, c'est à aucun de ses frères. Vous allez voir pourquoi, voilà le texte exact. « Ainsi je te fais mes adieux, et certes, tristement, oui, à toi, espérance aimée. » Donc c'est un adieu à l'espérance qu'il manifeste ici. Et donc, il laisse entendre qu'il va quitter la vie, qu'il va en finir. Et heureusement... Pour nous, pour lui, pour nous, pour l'histoire de la musique, eh ben, il n'en fait rien. Et ce moment charnière de la vie de Beethoven coïncide avec une espèce d'impulsion supplémentaire dans la révolution qu'il mène au sein de la composition musicale.
Oui, il va surmonter cette crise de désespoir. Alors, ouais. Cette lettre ne sera jamais connue de son vivant. Non. Elle va être retrouvée après sa mort dans un tiroir.
Oui, oui.
Avec l'autre fameuse lettre à l'immortel bien-aimé.
Voilà, qui est une...
Qui va se monter en même temps.
Alors j'avais eu l'occasion de jouer avec François-René Duchâble le 3e concerto pour un public de handicapés, l'association Marie-Louise nous avait magnifiquement expliqué que Beethoven avait réussi à transformer son handicap en une force extraordinaire, et c'est proprement stupéfiant de voir qu'il n'est pas totalement, il n'est pas totalement abattu, mais c'est le côté héroïque du destin de Beethoven peut se comprendre quand on compare la précocité avec laquelle il est devenu malentendant, puis complètement sourd, et puis quand on voit toute l'œuvre qui est après ça, qui va suivre.
Alors vous avez prononcé le mot héroïque. Beethoven reprend courageusement le cours de son existence, bien décidé à affronter son handicap et plus que tout à composer sa musique. Beaucoup de chefs-d'œuvre vont suivre, vous venez de le dire, et ce dès l'année suivante où il compose l'essentiel de sa 3e symphonie, celle qui sera appelée par la suite l'héroïque. Là, il faut qu'on raconte l'histoire de cette œuvre que Beethoven apparemment préférait entre toutes ses symphonies et qu'il avait prévu dédicacer à un certain Napoléon Bonaparte avant de se raviser finalement. Il faut que vous nous racontiez l'anecdote là, Serge Chosy.
Oui, il faut rappeler que Beethoven était très profondément républicain. Hein, la royauté, ça n'intéressait pas du tout. Les nobles, bon, évidemment, ils profitaient de leur aide, mais bon, ils les considéraient comme des individus comme les autres. Et donc, il était très républicain. Et les idéaux de la Révolution française, il les a fait siens. Il était très, très profondément républicain. Et donc...
Mais il voyait en Napoléon, justement, celui qui était le dépositaire des idéaux de la Révolution.
Il l'avait considéré comme l'héritier de la Révolution française, des idéaux de la Révolution française, et donc il avait conçu cette 3e symphonie en hommage à Napoléon Bonaparte, et donc il était tout heureux de lui offrir ce pas en avant dans la révolution du langage symphonique de l'époque. Malheureusement, lorsqu'il a appris que Napoléon se faisait sacré empereur, il a été pris d'une fureur épouvantable et il a rayé, d'ailleurs on voit encore le document, on peut encore le voir sur
Internet. Il est troué tellement
violemment
avec la plume.
Il a rayé sa dédicace et il l'a modifié en disant à la mémoire d'un héros. Et c'est devenu Heroica, donc héroïque. Et pour lui, Napoléon, c'était terminé, quoi. Donc, toute cette symphonie est dédiée à des idéaux qui ne sont plus ceux de Napoléon Bonaparte, évidemment.
D'autant plus que les sièges de Vienne qui allaient arriver n'allaient pas lui faire changer d'avis.
Ça n'allait pas arranger les choses. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, parmi les versions de référence de la troisième symphonie de Beethoven, l'héroïque, il y a entre autres celle d'Herbert von Karajan avec le Berliner Philharmoniker Orchestra. C'est un extrait de cet enregistrement que je vous propose d'écouter maintenant, le tout début du premier mouvement Allegro con brio. Le premier mouvement Allegro con brio de la troisième symphonie de Beethoven, interprété par le Berliner Philharmoniker Orchestra, sous la direction d'Herbert von Karajan, un des sommets de l'art beethovenien, composé en 1802-1803, créé en 1805. Serge Krzyzewski, là, chef-d'œuvre de Beethoven, mais peut-être déjà une œuvre qui préfigure ce que sera le romantisme.
C'est une forme de manifeste du romantisme déjà, même si Beethoven a eu des problèmes avec ce mot, on considérait à l'époque Mozart et Haydn comme des romantiques. Donc la perception du romantisme est très différente suivant les époques, et c'est après coup que les étiquettes malheureusement sont toujours réductrices. Mais clairement, la somme de nouveautés qu'il y a dans cette symphonie est impressionnante. Enfin, elle est très très longue. Les mouvements, la taille, les proportions aussi. Jamais une symphonie n'aura été aussi développée. On parlait tout à l'heure de la forme sonate. Le développement est très très long. L'instrumentation, la part faite aux instruments avant. Là aussi, il y a une synthèse supplémentaire, on parlait de la Révolution française, de la part de Beethoven, qui utilise des éléments, des sonorités, des orchestres révolutionnaires, ou qui utilisait beaucoup d'instruments avant. Il connaissait tout ça, certainement. Et puis, il y a cette marche funèbre comme second mouvement, le scherzo, le final, qui est un final en forme de variation, qui inclut également une fugue. Enfin, c'est une symphonie véritablement monumentale, sachant que tout ce qui va suivre, et la surdité, y serait-elle pour quelque chose? Parce que, évidemment, Beethoven, il sera renfermé de plus en plus sur lui-même, mais il sera de plus en plus disponible pour sa composition et ses compositions, et pour exprimer sa pensée musicale. Voilà, les chefs-d'œuvre ne vont pas manquer après.
Cette même année 1803, Beethoven commence la composition d'une sonate pour piano, la 21e, qu'il va dédier à son protecteur et bienfaiteur Waldstein. On boucle un peu la boucle, il va même donc lui donner son nom. Elle est créée en 1805, comme la 3e symphonie. On va en écouter une version de cette sonate 21, Waldstein, une version interprétée par le pianiste russe Mikhail Pletnyov. Thank you. Le premier mouvement, encore allegro con brio, de la sonate pour piano numéro 21, Waldstein de Beethoven, joué ici par le russe Mikhail Pletnev. Très belle interprétation. Qu'est-ce que vous en pensez, Serge Krichevski? C'est comme ça que ça doit être joué.
Une œuvre fascinante, une de plus, on va dire. Effectivement, avec ce piétinement, cette sorte de vibration de l'accord de Do majeur au début. Voilà, on a un accord dans le grave, une grappe, et puis des sortes de bribes comme ça, de motifs qui apparaissent, et puis le discours se construit, et puis en même temps, il va très très loin aussi avec les tonalités, enfin une œuvre aussi magnifique après, il y a un adagio pas très long et puis un rondo très très beau qui termine cette œuvre. Mais Waldstein apparemment n'était plus trop en contact avec Beethoven à ce moment-là, il était rentré d'ailleurs, il était revenu à Vienne, mais il ne se voyait plus. Voilà, alors ça clôt d'une certaine manière, bon, il y a une grande période d'écriture des sonates pour piano de Beethoven, puisque là, il écrira encore dans ces années-là la Passionata, qui est très très célèbre, et puis après, il y aura les grandes sonates, mais là, on a un magnifique point de...
On repartira de là, ou presque, lors de la prochaine émission. Ben, on a vu aussi le chemin parcouru. Depuis les premières sonates à l'électeur, on voit le contraste saisissant, bien sûr, l'évolution d'un génie de la musique. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Mélomanie, le premier du cycle que nous consacrons à Beethoven pour célébrer à notre manière le 250e anniversaire de sa naissance. Un grand merci à tous les deux, Serge Chosy et Serge Krichevski, d'y avoir participé et d'y avoir apporté toute votre érudition, votre passion pour la musique du génial Ludwig van Beethoven. Nous avons appris beaucoup de choses grâce à vous et nous en apprendrons encore plus en poursuivant l'exploration de la vie et de l'œuvre du compositeur allemand la semaine prochaine lors d'un deuxième volet dédié aux années qui vont peu ou prou de 1805 à 1820, 15 ans donc très productifs malgré sa surdité et jalonné de chefs-d'œuvre en tout genre, parmi les plus éblouissants que la musique savante occidentale nous ait donné. Nous vous proposons encore de nombreux extraits dans les meilleures interprétations pour illustrer cette période. Autant dire que ce sera de nouveau un régal pour nos oreilles. Merci à Christophe Aubry d'avoir piloté la régie technique de cette émission, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci de nous être toujours fidèles et très bonne semaine à tous.